Giuda Leon cedió a permutaciones.
Alors, par haine envers Aboulafia, à la énième obtuse demande « Tu as le mot de passe ?» Je répondis « Non ». L'écran commença à se remplir de mots, de lignes, d'indices, d'une cataracte de propos. J'avais violé le secret d'Aboulafia. J'étais si excité par ma victoire que je ne me suis même pas demandé pourquoi Belbo avait précisément choisi ce mot. À présent, je le sais. Et je sais que lui, en un moment de lucidité, avait compris ce que je comprends à présent. Mais je dis, je ne pensais qu'à une chose, j'avais gagné. Je me mis à danser, à battre des mains, à chanter une chanson de corps de garde. Puis, je m'arrêtai et allai dans la salle de bain pour me laver la figure. Je revins et mis à l'impression en premier lieu le dernier fil, celui que Belbo avait écrit avant sa fuite à Paris. Ensuite, tandis que l'imprimante craquetait, implacable, je me mis à manger comme un goinfre et à boire encore. Lorsque l'imprimante s'arrêta, je lus, et j'en fus bouleversé. Et je n'étais pas encore capable de décider si je me trouvais devant des révélations extraordinaires ou le témoignage d'un délire. Que savais-je au fond de Jacopo Belbo? Qu'avais-je compris de lui au cours des 2 années où j'avais été à ses côtés presque chaque jour? De quelle confiance pouvais-je créditer le journal d'un homme qui, de son propre aveu, écrivait en des circonstances exceptionnelles, obnubilé par l'alcool, par le tabac, par la terreur, pendant 3 jours coupé de tout contact avec le monde? La nuit était tombée désormais, la nuit du 21 juin. Mes yeux pleuraient. Depuis le matin, je fixais cet écran à la fourmilière de points produite par l'imprimante. Que fut vrai ou faux ce que j'avais lu? Belbo avait dit qu'il téléphonerait le matin suivant. Je devais l'attendre ici. La tête me tournait. J'allais en vacillant dans la chambre à coucher et me laissais tomber tout habillé sur le lit encore défait. Je me réveillais vers 8 heures d'un sommeil profond, visqueux, et au début, je ne me rendais pas compte où j'étais. Heureusement, il était resté une boîte de café et j'en fis plusieurs tasses. Le téléphone ne sonnait pas. Je n'osais pas descendre pour acheter quelque chose, craignant que Belbo n'appelât juste à ce moment-là. Je revins à la machine et commençai à imprimer les autres disques dans l'ordre chronologique. Je trouvais des jeux, des exercices, des comptes rendus d'événements dont j'étais au courant, mais, réfracté par la vision privée de Belbo, ces événements aussi m'apparaissaient maintenant dans une lumière différente. Je trouvais des morceaux de journal intime, des confessions, des débauches de tentatives romanesques enregistrées avec la susceptibilité amère de celui qui les s'est déjà voué à l'insuccès. Je trouvais des notes, des portraits de personnes que je me rappelais aussi, mais qui à présent prenaient une autre physionomie, je voudrais dire plus sinistre, ou était-ce seulement mon regard qui se faisait plus sinistre, ma façon de recomposer des allusions fortuites en une terrible mosaïque finale? Et surtout j'ai trouvé un fil entier qui ne rassemblait que des citations. Tirées des lectures les plus récentes de Belbo. Je les reconnaissais à première vue, et combien de textes analogues n'avions-nous pas lus ces mois-là? Elles étaient numérotées. 120. Le nombre n'était pas fortuit. Ou bien, la coïncidence était inquiétante. Mais pourquoi celle-ci et pas d'autres? Maintenant, je ne peux relire les textes de Belbo et l'histoire entière qu'il me remet en esprit qu'à la lumière de ce fil. J'égrène ces exerptas comme les grains d'un chapelet hérétique, et cependant je m'aperçois que certains d'entre eux auraient pu constituer pour Belbo une alarme, une piste de sauvegarde. Où est-ce moi qui ne parviens plus à distinguer le bon conseil de la dérive du sens? Je cherche à me convaincre que ma relecture est la bonne, mais pas plus tard que ce matin, quelqu'un m'a pourtant dit à moi, et pas à Belbo, que j'étais fou. La lune monte lentement à l'horizon, au-delà du bricot. La grande maison est habitée par d'étranges bruissements. Peut-être des vers rongeurs, des rats, ou le fantôme d'Adelino Canepa. Je n'ose parcourir le couloir. Je suis dans le bureau de l'oncle Carlo et je regarde par la fenêtre. De temps en temps, je vais sur la terrasse pour surveiller si quelqu'un s'approche en montant la colline. J'ai l'impression d'être dans un film. Quelle peine. Ils vont venir. Et pourtant la colline est si calme cette nuit. Désormais nuit d'été. Combien plus aventureuse, incertaine, démente la reconstitution que je tentais pour tromper le temps et pour me garder bien vivant l'autre soir, de 5 à 10 heures, droit dans le périscope, tandis que pour me faire circuler le sang, je bougeais lentement et mollement les jambes, comme si je suivais un rythme afro-brésilien. Repenser aux dernières années en m'abandonnant au roulis ensorceleur des atabaques. Peut-être pour accepter la révélation que nos divagations, commencées comme un balai mécanique, maintenant, dans ce temple de la mécanique, se seraient transformées en rite, possession, apparition et domination de l'exo. L'autre soir, dans le périscope, je n'avais aucune preuve que ce que m'avait révélé l'imprimante était vrai. Je pouvais encore me défendre par le doute. D'ici minuit, je m'apercevrais que j'étais venu à Paris, que je m'étais caché comme un voleur dans un inoffensif musée de la technique, pour la seule raison que je m'étais introduit sottement dans une macumba organisée pour les touristes et laissé prendre par l'hypnose des perfumadores et par le rythme des puntos. Et ma mémoire tentait tour à tour le désenchantement, la pitié et le soupçon, en recomposant la mosaïque. Et ce climat mental, cette même oscillation entre illusion fabulatoire et pressentiment d'un piège, je voudrais les conserver à présent, alors qu'avec l'esprit bien plus lucide, je suis en train de réfléchir sur ce que je pensais alors, recomposant les documents lus avec frénésie la veille et le matin même à l'aéroport et pendant le voyage vers Paris. Je cherchais à y voir plus clair dans la façon irresponsable dont Belbo, Diotalevi et moi étions arrivés à réécrire le monde, et Diotalevi me le dirait, et à redécouvrir les parties du livre qui avaient été gravées au feu blanc dans les interstices laissés par ces insectes au feu noir qui peuplaient et semblaient rendre explicite la Torah. Je suis ici à présent après avoir atteint, j'espère, la sérénité et la morphatie. Pour reproduire l'histoire que je reconstituais plein d'inquiétude et d'espoir qu'elle fût fausse, dans le périscope, il y a deux soirs, l'ayant lu deux jours avant dans l'appartement de Belbo et l'ayant vécu, en partie, sans en prendre conscience au cours des 10 dernières années, entre le whisky de Pilade et la poussière des éditions Garamond.